Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Prague pour un nouveau programme culturel. Au sommaire de ce samedi, la suite de l'entretien de notre spécialiste littéraire Václav Richter avec le professeur Bernard Michel au sujet de son livre Prague, Belle Époque. Notre rubrique Culture sans frontières nous emmènera également dans le quartier de Josefov à Prague à la rencontre de la créatrice d'une boutique de mode éphémère et d'une styliste franco-tchèque invitée spécialement pour cette expérience. Vous écoutez Radio Prague et vous avez bien raison, bonne écoute. En plein cœur de la vieille ville de Prague, dans l'ancien quartier juif de Josefov, les boutiques de mode de grandes marques côtoient les synagogues. C'est ce samedi que s'achève un événement mode venu de France, la boutique éphémère by Meliana, qui entendait faire découvrir pendant 3 jours à Prague des créateurs français originaux. Parmi eux, la styliste d'origine tchèque Katarzyna Gejsrerová, qu'Anna Kubišta a rencontrée en compagnie de Meliana Legorju, conceptrice de la boutique.
Culture sans frontières.
Meliana Legorju, bonjour.
Bonjour.
Et Katarzyna Gejsrerová.
Bonjour.
Alors, Katarzyna Gejsrerová, on vous connaît puisqu'on a déjà eu l'occasion de faire pas mal d'entretiens sur vos collections. Vous êtes créatrice de mode. On aura l'occasion de revenir un petit peu plus tard sur la collection que vous présentez ici à Prague. Je me tourne vers vous, Meliana, pour un petit peu discuter de ce projet, ce concept store ici à Prague, qui est un petit peu quelque chose qui est du jamais vu ici à Prague, j'ai l'impression.
Alors oui, en effet, c'est du jamais vu et en l'occurrence, c'est assez novateur puisque c'est du jamais vu globalement sur... Enfin, ça n'existe encore pas en ce sens que le concept, c'est un concept global de boutique éphémère. Boutique éphémère, ça veut dire une sélection de créateurs français. On reviendra sur Katarzyna qui est un petit peu l'exception mais que j'ai découvert à Paris, donc c'était un petit peu le clin d'œil.
En plus, c'est une Française d'adoption.
C'est une Française d'adoption, mais j'ose pas le dire parce que sinon les Tchèques vont me dire que je vole les créations. Donc je le dis pas tout à fait. Donc voilà, donc c'est une sélection de créateurs qui restent confidentiels, mais qui néanmoins ont une grande expérience puisque pour certains et la plupart, ils sont distribués effectivement dans des grands magasins à Paris et à l'étranger. Une sélection parfois de créations qui sont réalisées exclusivement pour By Meliana. Donc voilà, donc l'objectif, c'est effectivement de regrouper en un seul endroit des créations de créateurs français fabriquées pour la plus grande majorité en France ou en tout cas dans les pays limitrophes. By Meliana, c'est aussi une ambiance que je souhaite pour les hommes et pour les femmes élégante, chaleureuse, enfin que les gens puissent passer un bon moment.
Mais à ce propos, quand vous parlez d'ambiance, vous avez prévu ici à Prague une dégustation de vin, de champagne, si j'ai bien compris.
Tout à fait, oui. En fait, là c'était vraiment à Prague d'apporter aussi le savoir-vivre français, ce qu'on appelle un petit peu l'élégance à la française ou un mot anglais qui est la French touch. En fait, bon, voilà, le but c'était d'offrir voilà, la mode et le vin, un tableau un petit peu, en tout cas, représentatif de la France. Donc effectivement, il y a du vin et du champagne à la dégustation, mais aussi à la vente. La troisième chose qu'il faut retenir sur le concept by Meliana, c'est aussi ce qui est très important, le service. Le service de conseil personnalisé, c'est-à-dire que tout ça font que en fait, vous venez chez by Meliana, que vous soyez un homme ou une femme, pour trouver des créations originales mais portables à des prix abordables et un conseil personnalisé. Voilà.
Cette boutique éphémère est installée ici au cœur de Prague, c'est la rue Elishke Krasnohorske, numéro 9. C'est un peu le cœur aussi des boutiques de mode à Prague, hein, puisqu'il y a la rue de Paris qui n'est pas très loin, qui porte bien son nom, puisqu'il y a énormément de grandes marques françaises, notamment et surtout, j'allais dire. Est-ce que, d'une certaine façon, vous avez l'impression que cette boutique éphémère s'intègre bien, j'allais dire, dans ce site historique pragois, qui est quand même très, très photogénique, on va dire.
Tout à fait. En fait, Vraiment, depuis l'origine, Prague, c'est une accumulation de coups de cœur et cette boutique en fait partie. D'abord, elle est très belle. Effectivement, elle est dans un environnement qui correspond parfaitement à l'atmosphère et à l'image que je souhaite véhiculer de By Meliana. Et par ailleurs, elle est assez représentative finalement entre, vous avez cité la rue de Paris où vous avez des grandes marques. Finalement, je m'aperçois qu'à Prague, on a le choix entre des grandes marques françaises ou alors des grands magasins comme Zara ou H&M. Finalement, il n'y a pas d'entre-deux réellement. Et ce qui m'a aussi donné effectivement l'envie de créer la première boutique éphémère à Prague de créateurs français.
Vous dites que c'est donc un concept qui a déjà fonctionné en France, que ici, en fait, à Prague, c'est la première boutique éphémère à l'étranger. Je crois savoir qu'à l'origine, vous êtes avocate. Alors, comment est-ce qu'on passe de avocate à créatrice de boutique éphémère de mode hein?
Bêtement, c'est le parcours de la vie. Non, en fait, très simplement, j'ai toujours eu beaucoup de d'attirance vers le milieu de la mode et des créateurs. Et puis, j'ai eu des postes à responsabilité, effectivement, dans des grandes entreprises françaises. Et puis, j'ai décidé, finalement, au mois de septembre, en ayant un déménagement, a fait que je me suis dit, tiens, puisque ça fait déjà 5 ans qu'en parallèle de mon métier, j'organise des boutiques éphémères à Paris et que finalement le concept plaît, eh bien pourquoi pas développer ce concept qui n'existe pas une fois de plus. Et c'est voilà, finalement les choses parfois les plus simples sont pas les plus évidentes. Je me suis dit pourquoi pas développer ce concept et véhiculer un petit peu les valeurs de la mode française à travers le monde.
Quel est l'objectif à terme de ces boutiques éphémères? Est-ce que vous aimeriez justement un petit peu plus essaimer à travers le monde et ne pas vous concentrer uniquement sur la France?
Ah oui, c'est vraiment l'objectif, justement, le fait d'avoir... J'ai pas quitté le droit par dépit, mais vraiment parce que j'avais envie de développer les boutiques éphémères à travers le monde. Donc Prague n'est que la première étape, j'espère, d'un long chemin vers une démultiplication des boutiques éphémères à travers le monde. Oui, tout à fait.
Alors, on va peut-être parler un petit peu de votre collaboration avec Katarzyna Geislerova. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'était, j'imagine que du coup, c'était évident qu'elle fasse partie de cette boutique éphémère?
Tout à fait. Comme je disais, Prague, finalement, c'est une succession de coups de cœur. Et le premier coup de cœur, en fait, j'étais simplement en train de faire un salon à la recherche de nouveaux créateurs originaux, mais en même temps, de très belle qualité. Et je me suis arrêtée devant le stand de Katarina et je suis tombée en admiration devant ses créations. D'ailleurs, je lui ai rien dit, je vais juste acheter un je vais juste acheter un tailleur. Et puis finalement je suis revenue et je lui ai expliqué un petit peu mon concept. Et là, un grand merci à Katarina parce que elle ne souhaitait pas être distribuée ailleurs que dans sa boutique à l'époque à Paris, et elle m'a fait confiance déjà depuis maintenant 5 ans. Pour moi, c'était une grande marque de confiance. Et puis finalement, on a continué, lors de mes boutiques éphémères, j'ai continué à proposer les créations de Katarina qui sont juste, qui s'arrachent à Paris. Et puis au mois de septembre, en discutant, parce que forcément, finalement, les relations d'amitié ont pris le pas sur les relations d'affaires. J'ai proposé à Katarina cette idée de Prague. Et Katarina, évidemment, toujours positive, m'a dit bien évidemment. Donc oui, Katarina, ici, est le cœur de la boutique éphémère à Prague.
Alors, Katarzyna, je me tourne vers vous maintenant. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire quelle est votre collection, qu'est-ce que vous avez choisi pour présenter justement dans le cadre de cette boutique éphémère à Prague?
Alors, c'est une collection printemps-été. Donc, mon inspiration, cette fois-ci, c'est un peu l'envie de facile à vivre. J'ai relu pour xème fois le bouquin de Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être. Et voilà, donc mon inspiration, c'est cette facilité à vivre qui forcément n'est pas toujours très facile. Elle peut être un peu douloureuse, un peu chaotique en même temps. Donc mon envie, c'était vraiment de trouver des matières qui sont légères et, comme je disais, faciles à vivre.
Quel type, justement, de matière?
Justement, donc la soie. une belle soie et du jersey très fluide, d'une bonne qualité de viscose. Et ma deuxième inspiration est Grace Kelly, qui pour moi est la femme. Ma collection, mes inspirations sont toujours, c'est la femme. Donc,
Oui, vous avez des travaux, des créations qui sont très féminines, qui mettent très, vraiment en valeur, la femme avec un grand F, comme le faisaient les artistes.
Oui, parce que je suis un peu nostalgique de cette élégance parisienne, d'ailleurs, qui, il y a 20 ans encore, je ressentais fortement dans la rue, et je trouve qu'elle se perd petit à petit, que ce soit à Paris ou ailleurs. Je trouve que nous, les femmes, on oublie un petit peu, on oublie d'être féminine, de montrer notre force, notre, en même temps, vulnérabilité. Et également un peu de sensualité. On s'habille de plus en plus en jean, en t-shirt. C'est bien plus confortable. Mais voilà, donc c'est un peu ma rébellion contre cette mode-là. Et depuis quelques temps, je crée surtout les collections de robes, justement pour dire stop à cette mode.
Pour revenir un petit peu sur ce concept de boutique éphémère, quand justement Méliana disait il y a quelques temps que finalement à la base vous vendez surtout dans votre boutique, mais vous avez fait confiance à Méliana pour son projet il y a 5 ans, qu'est-ce qui vous a séduit justement dans ce projet pour que finalement ça vous tente ?
Eh bien, en fait, c'est surtout le service proposé. Je trouve que quand on rentre dans une boutique dans une ville, je trouve que les vendeuses, elles ne savent pas proposer à la femme. Donc le résultat, c'est que la femme, elle, la plupart du temps, pas toutes les femmes ne sachent pas ce qui est beau, ce qui pourrait lui aller. Je trouve que ce service, cette volonté de proposer à la femme de l'aider, de lui proposer quelque chose qui pourrait renforcer son bien-être, son caractère. C'est ça.
Katagena, pour parler de votre travail, de vos créations, donc vous êtes ici présentée dans le cadre de cette boutique. Est-ce qu'on peut juste dire deux mots sur peut-être d'autres actualités liées à votre création ici à Prague dans les mois à venir ?
Donc ma prochaine manifestation sera à Bratislava. Ils m'ont invité pour le Fashion Weekend qui va se passer dans 10 jours à peu près. Donc je vais avoir un défilé. Donc ça c'est la première manifestation. Et la deuxième, c'est pendant le Prague Fashion Weekend de septembre. Un deuxième défilé de la collection automne-hiver.
Et sans doute dans la boutique éphémère de Méliana.
Et évidemment, c'est déjà prévu.
Du coup, c'est une première ici à Prague. Est-ce qu'on peut dire que, que cette boutique éphémère va un jour peut-être revenir à Prague ou finalement elle va partir vers d'autres horizons ?
Cette question est importante parce que justement, je crois qu'il faut vraiment assimiler le fait que le concept de boutique éphémère, il faut absolument pas le comparer avec ce qu'on appelle les pop-up stores ou les ventes privées. La boutique éphémère, c'est pas parce qu'elle est éphémère qu'elle ne se passe qu'une seule fois. En réalité, une boutique éphémère, et c'est ce qui se passe dans les grandes villes en France, revient, en tout cas la boutique éphémère by Méliana, revient à chaque saison. Pourquoi ? Parce que l'objectif est de présenter que des collections actuelles, uniquement des collections actuelles. En conséquence, là, je présente la collection printemps-été 2013 et bien évidemment que je serai là à la rentrée pour présenter la collection automne-hiver. L'objectif étant que les hommes et les femmes qui adhèrent au concept puissent, à chaque saison, pouvoir renouveler leur garde-robe et revenir pour retrouver la même atmosphère, la même ambiance agréable et passer un bon moment. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les autres villes en France. Donc vraiment, la boutique éphémère ne dure que 3 jours parce que c'est un événement, mais elle a vocation à revenir à chaque saison. Donc oui, Prague, si vous m'aimez, je reviendrai.
Thank you.
Notre émission se poursuit toujours à Prague avec la deuxième partie de notre entretien avec Bernard Michel, spécialiste de la période Belle Époque de la capitale. Restez avec nous sur Radio Prague. L'historien français Bernard Michel, spécialiste de l'histoire de l'Europe centrale, revient à nouveau sur son livre « Prague, Belle Époque 1895-1928 » et évoque notamment Franz Kafka, la plus grande personnalité littéraire pragoise des premières décennies du XXe siècle. Venu à Prague pour donner une conférence sur la naissance de l'épopée slave, Bernard Michel révèle ensuite dans cet entretien ses sources d'informations sur ce cycle de toiles monumentales par lesquelles le peintre Alphonse Mucha a représenté les moments cruciaux de l'histoire des peuples slaves. Il ne cache pas son admiration pour cette œuvre grandiose et prend la défense de sa modernité.
Rencontre littéraire. Dans la seconde partie de l'entretien que l'historien français Bernard Michel a accordé à Radio Prague, ce spécialiste de l'histoire de l'Europe centrale revient à nouveau sur son livre « Prague, Belle Époque, 1895-1928 » et évoque notamment Franz Kafka, la plus grande personnalité littéraire pragoise des premières décennies du XXe siècle. Venu à Prague pour donner une conférence sur la naissance de l'épopée slave, Bernard Michel révèle ensuite, dans cet entretien, ses sources d'informations sur ce cycle de toiles monumentales par lesquelles le peintre Alphonse Mucha a représenté les moments cruciaux de l'histoire des peuples slaves. Bernard Michel ne cache pas son admiration pour cette œuvre grandiose et prend la défense de sa modernité. Vous corrigez dans votre livre un peu l'idée que nous nous faisons de Franz Kafka, de sa vie à Prague et de son rapport envers la ville. Kafka n'était pas donc cet être solitaire, cet homme qui vivait isolé dans un milieu antisémite, comme on le présente parfois.
Bien sûr, il n'y avait pas de milieu antisémite. Il était parfaitement libre intellectuellement de prendre les décisions qu'il souhaitait. Et il a joué quand même un rôle, son fonction dans cette société d'assurance des accidents était remarquable parce qu'il avait quand même une cinquantaine de collaborateurs sous ses ordres. Vous voyez, dans sa journée, il était constamment pris et il avait choisi ce type de vie. Il n'avait pas envie d'être un écrivain qui se met à sa table à 9h du matin et puis termine à 14h ou 15h l'après-midi. Il ne voulait pas de cette vie d'un écrivain qui soit uniquement enfermé chez lui. Il voulait être au contact de la société. Il avait besoin de contact.
Comment interprétez-vous dans ce contexte la célèbre phrase de Kafka, souvent citée, « Prague ne me lâche pas, cette petite mère a des griffes ».
Oui, mais écoutez, c'est un éloge, c'est pas du tout une critique de Prague. C'est qu'il a le sentiment, effectivement, que sa vie peut difficilement exister s'il est hors de Prague. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est resté jusqu'à la fin de sa vie. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'il s'éloigne à la fin de sa vie, surtout pour des raisons de santé, il doit quitter Prague pour aller dans des sanatoriums ou dans d'autres maisons où on peut traiter sa maladie. Quand il dit qu'il est pris profondément par Prague, c'est une réalité, mais ça n'est pas une réalité qui lui est défavorable. C'est au contraire quelque chose de merveilleux. Il est pris en main par cette ville de Prague.
Votre livre s'arrête en 1928. Pourquoi ?
Pourquoi est-ce que je l'ai arrêté en 1928 ? Parce qu'il m'a semblé que 1928, c'était d'abord les 10 ans de la Première République. Et il faut rappeler à quel point cela a été célébré par les Tchèques. C'était la grande étape. Et pourquoi est-ce que ça s'arrête en 1928 ? Parce qu'on rentre après dans un univers complètement différent, qui est la Prague des années 30, où on commence à sentir immédiatement les menaces qui pèsent sur la République tchécoslovaque. Donc il y a à ce moment-là un changement et en même temps un changement de génération. On commence à voir apparaître quelques écrivains plus jeunes. Vous voyez, mais je crois que c'est 1928 est resté le grand tournant parce que c'est le moment où il y a vraiment un triomphe de la Première République tchèque. Vous voyez, c'est la manière dont on a célébré Masaryk, la manière dont cela a été organisé dans toute la société, c'était quelque chose qui marquait l'unité de la République tchèque. Et il faut rappeler que dans cette unité, il y avait la présence des Allemands de Tchécoslovaquie. Et il faut dire à quel point 1928 a été fêté aussi par eux. Il y a eu des groupes entiers d'Allemands qui se déclaraient favorables à la République tchèque.
Vous êtes venu à Prague pour donner une conférence sur la naissance de l'épopée slave d'Alphonse Mucha. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de plus sur le thème de cette conférence ?
Écoutez, d'abord, pour dire que je suis quelqu'un qui s'est passionné pour Mucha à un moment où on n'en parlait plus de lui, ni en France, ni en Tchécoslovaquie. Je me suis donc passionné pour Mucha dès les années 1960, et j'ai publié un article que j'ai écrit dans les années 1960, qui a été publié en 1973, dans lequel j'étudiais Mucha et Kupka, peintres de l'histoire des Tchèques et des Slovaques. Voilà, c'était donc quelque chose de très très ancien.
Comment voyez-vous en tant qu'historien les aspects historiques de l'épopée slave de Mucha, le choix des événements historiques que Mucha a fait pour les représenter sur ces tableaux?
J'utilise pour la première fois les archives personnelles d'Alphonse Mucha. C'est son petit-fils John Mucha qui a mis ces documents à ma disposition. Il m'a envoyé toute la photocopie des documents des archives d'Alphonse Mucha dans lesquelles il parle lui-même de l'épopée. C'est donc quelque chose de tout à fait neuf, puisque les historiens tchèques que je connais, comme Karel Sörp par exemple, avec qui j'ai eu des relations amicales dans le passé, ne disposaient pas de ces documents. J'ai donc vu comment il travaillait de l'intérieur et j'ai trouvé en même temps des lettres qu'il écrivait sur l'épopée slave, des lettres à Crane, cet Américain qui a payé pour la réalisation de l'épopée slave. Et il envoyait des lettres à Crane dans lesquelles il lui donnait des renseignements extrêmement précis sur les tableaux qu'il peignait et sur sa vie de recherche à travers l'Europe, car il se déplaçait à travers toute l'Europe, pour aller à la recherche des documents qui lui étaient indispensables.
Les critiques ont reproché à Mucha son conservatisme artistique, d'une part, et d'autre part, le choix un peu trop personnel de ces événements historiques qu'il considérait comme cruciaux pour l'histoire des peuples slaves.
Alors, je suis en total désaccord avec cette idée. Je voudrais rappeler que quand la revue Novesmieri commence en 1913 à critiquer l'épopée slave, les gens qui écrivent ça n'ont jamais vu un tableau de l'épopée slave. Hein? Ce sont donc des gens qui disent ce sont de mauvais tableaux, mais ils n'en ont pas vu un seul. Vous comprenez? Tout cela a été une intrigue menée par des gens autour de Novesmieri. Et que reprochait-il à Mucha? Il reprochait à Mucha tout simplement d'être un homme célèbre, alors qu'eux n'étaient pas connus en dehors de l'État dans lequel ils vivaient, ils étaient complètement inconnus. Lui était une personnalité de rayonnement mondial. Il a fait cadeau à la ville de Prague des 20 tableaux qui avaient une immense valeur marchande, et qu'il réclamait simplement en échange qu'on construise un bâtiment qui permette d'abriter ses toiles et de les exposer à Prague. Ce qui n'a pas été réalisé par la faute de la ville de Prague, qui n'a pas tenu là ses engagements. Donc vous voyez, moi je suis tout à fait persuadé qu'au contraire, les tableaux de Mucha sont extraordinairement modernes. Et je vous dirais que je suis sur ce point suivi par d'autres spécialistes. Je crois qu'il faut dire que Moura est un homme qui, d'une part, a été parfaitement moderne dans la mesure où il a constamment utilisé la photographie. Et il a aussi été très proche du cinéma. Quand vous regardez les tableaux de l'épopée slave, vous voyez certains tableaux sont des tableaux fondés sur la notion de contre-plongée et de plongée qui sont des notions qui sont celles du cinéma de son époque. Il n'est donc pas coupé du monde moderne, il a été jusqu'au bout quelqu'un qui représentait des progrès. Or, ces personnages sont tout à fait conformes à la vision moderne que l'on peut avoir dans le cinéma de son époque.
Suivez-vous un peu la polémique, justement, sur la recherche de l'endroit où l'épopée slave devrait être définitivement exposée?
Eh bien, écoutez, moi personnellement, j'ai connu l'épopée slave à Moravski-Krumlov, et je peux dire que c'était indigne de le laisser dans un petit château qui était vraiment toujours isolé des routes touristiques et où l'on pouvait difficilement entrer parce que quand vous aviez 20 personnes dans une salle en bas et 20 personnes en haut, on ne pouvait pas aller pratiquement au-delà. Il n'y avait pas suffisamment de place. Et puis, ces peintures n'étaient pas entretenues. C'était donc catastrophique. Le stade de Moravski-Krumlov, la seule chose qu'ils ont réalisée a été de sauver quand même ces toiles. Mais, si vous voulez, c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, je pense qu'il faut absolument réaliser un musée Moura à Prague. Mais là, alors, il y a des contraintes financières. Je sais qu'il y avait un premier projet qui devait être fait, qui coûtait déjà quelque chose comme 300 millions de couronnes. Il est évident qu'on est à un mauvais moment où les fonds pour la culture ne sont plus en mesure d'être augmentés de manière considérable. Donc je crains qu'il y ait des difficultés de ce côté. Et je sais que John Moura, de son côté, avait fait une présentation d'un projet dans lequel ce serait une société privée qu'il connaît, qui serait en mesure de réaliser ses travaux, avec en échange, effectivement, le fait qu'on lui garantisse ensuite des avantages financiers pendant une période de 20 ou 30 ans, pour que l'on puisse compenser les énormes investissements qui seraient réalisés.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce programme et l'ensemble de nos rubriques sont disponibles en podcast sur notre site internet à l'adresse www.radio.cz. Cette émission vous a été présentée par Marion Dautry. À très bientôt sur Radio Prague.